des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Caroline Saint-Hilaire et Antoine Robitaille sont avec nous pour parler de politics. Bonjour à vous deux.
Ah oui, bonjour.
Ah, ben,
malade. Politics aujourd'hui.
Politics today, parce que Marie-Ève Proulx a décidé de quitter.
Ben oui. Elle était visée encore par d'autres allégations, rumeurs de harcèlement. Ça fait quelques semaines là, qu'on entend ces rumeurs-là. Et on savait, puis j'en ai parlé hier, qu'une ex-employée de son bureau de circonscription avait déposé, il y a un peu plus d'un mois, deux plaintes au tribunal administratif du travail. Finalement, ça s'était soldé par une entente à l'amiable. Mais là, la pression était de plus en plus forte, surtout qu'on est en pleine semaine de la santé mentale. Les partis d'opposition, vraiment, l'ont rappelé ce matin dans le couloir, dans le hall du Parlement où il y a les points de presse. Alors, on
c'est
sait
quoi
que
le lien entre la santé mentale?
Il y avait un départ. Ouais, ben, à cause du harcèlement, hein, comme dit Dominique Anglade, on a beaucoup entendu le premier ministre se préoccuper des attaques sur Facebook, du harcèlement public. Mais ce qui est important, c'est pas uniquement les discours durs là sur les médias sociaux. Mais c'est important aussi de se soucier que les environnements de travail soient aussi dénués de ce type de phénomène. Or, Mme Proulx avait encore perdu un autre membre de son cabinet vendredi dernier. Et hier, elle avait dit que c'était une question de régie interne, mais là, la pression était sans doute trop forte parce qu'il y avait d'autres rumeurs. Et ça semblait être un problème récurrent chez elle. Déjà, en février 2020, je me souviens, Marc-André Gagnon, ici du bureau politique, avait écrit un article sur le départ de 12 personnes en 14 mois. Et là, on est rendu à quelques 15 personnes. On avait fait des changements à l'intérieur. Là, évidemment, on avait essayé d'aider la ministre, mais il semble que ça soit un problème récurrent.
Donc, alors, c'est de la régie externe maintenant.
Ouais, ça devient de la régie externe, exactement. Ben oui, mais quand il y a, tu sais, le harcèlement psychologique au travail, c'est illégal, hein, ça a été rendu illégal.
Non, mais attends,
il y a quoi,
là, tu dis ça, mais on n'a pas de détails, là. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'enquête.
Non, c'est ça, mais tu sais, ça arrive des fois, Benoît, qu'il y a ce type de situation où la personne préfère partir plutôt que de subir un espèce de procès sur la place publique aussi. Mm-hmm. On pense à l'entente à l'amiable, justement, après le dépôt de deux plaintes au tribunal administratif du travail. Alors, c'est ça, là. Est-ce qu'elle voulait qu'il y ait d'autres plaintes? Il parlait qu'il y avait d'autres plaintes qui s'en venaient. Ça semblait être récurrent. Je comprends là, que toi, tu veux dire que c'est un... Comment dire? Qu'on juge pas sur des pièces, des preuves concrètes, mais... Il semble y avoir un pattern et c'est ça que les partis d'opposition ont dit. Puis là, ben, elle a décidé de partir.
OK. Caroline?
Ben, parce qu'en fait, ce que je comprends ce que tu veux dire, Benoît, puis, mais ce que je comprends, moi, depuis hier, les langues commencent à se délier et je pense que la pression devenait de plus en plus forte, pas juste pour Mme Proulx, pour M. Legault aussi. Et je pense que hier, M. Legault a probablement posé des questions à Mme Proulx et là, en tout cas, moi, il y a des gens qui ont commencé à me raconter des histoires et là, est-ce que Mme Proulx avait envie que tout ça sorte? Alors, peut-être qu'elle était mieux, effectivement, de démissionner ou d'accepter de se faire démissionner et prendre une pause et peut-être régler ses problèmes de régie interne hors des caméras puis tout ça là, parce que c'est quand c'est un départ, deux départs, bon, trois, quatre, tu peux dire ok, j'ai de la misère à m'entourer ou j'ai des problèmes d'adaptation, mais là, comme dit Antoine, 14 en 12 mois, je veux dire
c'est en fait, ça commence à ressembler à quelque chose de systémique.
C'est 12 en 14 mois.
C'était 12 en 14 mois, mais là, on est rendu à 15 en plus de 18.
Ouais, c'était une équipe de baseball, ça. Hein? C'est du monde. OK.
Mais non, c'est sérieux. Là,
ah, oui, oui. Bon, parfait. Est-ce que
on va donner l'exemple quand on est ministre.
Mais ça doit.
Quand on est élu tout court, c'est ben, ça que raison. Moi j'ai quand, c'est la question que j'ai posée à Dominique Anglade qui se concentrait toujours sur le ministre, mais quand on est élu, écoute,
quand on est
au Parlement, quand on marche dans un couloir, là, c'est tapissé d'affiches anti-harcèlement.
Ben oui, mais partout, dans tous les jobs. Dans tous les jobs, hein, faut faire attention. Puis en même temps, faut faire attention à la ligne où il y a des fois, il y en a qui sont exigeants. Puis là, il y a des flocons de neige aussi qui aiment pas ça, là, de, tu sais, qu'on leur dise que le travail est mal fait. Fait que, tu sais, il y a une ligne là, à respecter.
Puis, quand la loi a été adoptée, moi, je me souviens très bien, si je me rappelle bien, c'était autour de 2006, là. Il y avait une loi, la loi sur le harcèlement au travail a été adoptée. Il y a des gens qui disaient, ça n'a pas de bon sens, c'est trop large, ça va permettre justement toutes sortes de fausses accusations. Puis chaque personne un peu trop sensible va pouvoir se plaindre. Il semble que la jurisprudence depuis ce temps-là, c'est du droit administratif, mais il y a de la jurisprudence quand même, essayer de baliser là, ce que c'est là, du vrai harcèlement au travail. Puis quand il est arrivé, puis moi j'ai vu plusieurs cause devant le tribunal administratif du travail à être rejetée. Donc, c'est sûr que c'était un risque, un espèce de pari que prenait le législateur en 2006 là, de reconnaître ça comme un problème. Là.
Qui a lu les 550 pages du rapport de Régine Laurent?
Pas moi.
c'est
moi, j'ai fait.
Tu l'as lu?
Oui, monsieur. Même le sommaire, Bretou, j'avais bien compris.
Puis? C'est bien écrit?
Oui. Non, c'est un cours, tout à fait intéressant. Honnêtement, c'est une belle lecture, bien fait. Oui, c'est très intéressant. Bon, tu peux de temps en temps sauter une page, là, mais... Non, c'est très intéressant. Ouais. Blague à part, c'est très, très intéressant. On prend conscience de l'ampleur du problème parce que, bon, on parle beaucoup de DPJ, mais puis j'étais contente d'entendre les ministres ce matin, c'est plus que ça. Non, c'est un rapport vraiment bien fait. Bravo, Régine Laurent. Bravo à toute l'équipe.
Parfait.
Antoine? Mais quand on se concentre sur les résumés comme moi, là, on peut quand même avoir quelques craintes.
C'est-à-dire?
Moi, je trouve que c'est tellement large, c'est tellement ambitieux. J'espère qu'on va commencer par ce qu'il y a de plus urgent, c'est-à-dire aider les intervenants sur le terrain, recréer finalement le vrai filet de service là.
Engager du monde.
Oui.
Engager du monde.
Plus vite possible, parce que c'est bien beau là de reconnaître des droits, tu sais.
Je suis d'accord. Moi,
là, les droits puis les commissaires là.
Je ne
suis pas sûr de ça, là, de cette portion-là, là, moi,
du rapport. Donner le temps aux intervenantes de s'impliquer, de savoir quel enfant et quel dossier. Là, ils sont tellement débordés, ils courent partout. Là. Engager du monde. Est-ce qu'ils vont engager du monde? Caroline, est-ce qu'il y a un chapitre? Voici comment on va engager du monde.
Non, mais en fait...
Le chapitre 13.
Ben oui, mais vous avez raison là, mais il y a une partie que ça revient sur le plan du gouvernement. Le rapport, c'est essentiellement de dire c'est un état des lieux, des propositions, des recommandations, ce qu'on a entendu, là où il y a des problèmes, c'est très très large, je suis d'accord. Là le défi, puis je suis d'accord avec vous autres, c'est la priorisation. On commence par quoi? C'est quoi l'urgence? Est-ce que c'est d'embaucher du monde? Est-ce que c'est de mettre un commissaire? Mais ça c'était pas le rôle de Régine Laurent de dire.
Là, il y a un comité qui est créé.
Il y a un comité, oui, ça, il y a plein de comités.
Il y a une directrice nationale de la santé publique, pas de la santé publique, mais une directrice nationale qui a été nommée.
C'est ça, mais c'est le rôle du gouvernement.
Oui, je sais, mais c'est parce qu'il faut faire attention avec ces gros rapports-là. À un moment donné, tu peux prendre un truc qui a l'air bien intéressant, là. On va créer un commissaire. Oui, mais ça, c'est long, puis il faut que tu fasses la loi.
Puis pendant ce temps-là,
tu sais, regarde avec les féminicides, là, il me semble qu'on avait le bon réflexe. Faut que l'argent se rende au plus sacrant.
Ouais.
Tu sais? Puis là, on regarde les infanticides dans la dernière année. Ben, c'est le chiffre le plus élevé depuis 8 ans. Alors, il y a aussi une urgence. Or là, ce qu'on fait, c'est qu'on discute d'une charte des droits de l'enfant, puis du commissaire, puis machin. Hey! En tout cas, c'est ma crainte.
Moi, j'ai une question très simple. À chaque fois qu'on annonce quelque chose, on va nommer un commissaire. OK, c'est quoi sa fonction? Parce que si tu engages des intervenantes, là, puis tu allèges le nombre de dossiers que les autres intervenantes doivent s'occuper, ben là, tu as un résultat concret, là, la semaine même. Mais des nominations, puis des comités, puis on se prend les mains, puis on revoit le droit, c'est je veux bien, là, mais c'est des concepts. On peut-tu adresser, l'urgence?
Tu sais, les droits dans notre société, là, ils sont reconnus. Je suis désolé, là. On a-tu besoin d'une autre charte? Tu sais, il y a une charte québécoise, il y a une charte canadienne. On a-tu vraiment besoin d'une autre charte pour limiter le nombre d'infanticides? Puis je tiens à dire, il va en avoir, il y a de la méchanceté dans la société, là. C'est comme féminicide zéro. Oui, OK, d'accord. Mais on sait bien que c'est pas possible. C'est une utopie.
Parce que
il y a de la méchanceté dans la société. On va en échapper.
Je peux-tu vous dire que je suis allé aux funérailles de la petite fille de Granby? J'ai assisté à ça. Je me suis mis dans un coin et j'ai regardé ça, là.
Ah oui?
Oui, je suis allé, là, puis ça brisait le cœur, puis il y avait des toutous, puis il y avait. Mais je vais vous dire aussi, là, c'est une question d'éducation. J'ai entendu des gens parler, là, ce jour-là, puis je me dis, il en manque des petits bouts. Tu sais, pour reconnaître les problèmes, pour exprimer la détresse puis la colère autrement qu'en frappant.
Justement, dans le rapport, on en parle de ça, de prendre les
la
enfants.
La prévention.
La prévention. Il y a un chapitre là-dessus, c'est super intéressant.
Bravo.
On peut déjà détecter des femmes qui ont des enfants, qui sont enceintes, est-ce qu'ils ont des comportements X, Y qu'on pourrait accompagner. Moi, je pense qu'il y en a plein d'idées, je dirais pas facilement applicables, parce que ce serait un peu prétentieux, mais il y a des choses à faire. Mais est-ce qu'on peut pas
attention,
faire les deux?
Parce qu'à travers ça, là, il y en a qui demandent aux professeurs d'en faire plus. Les professeurs sont déjà débordés.
Ben, tout le monde doit en faire plus.
Ben,
on doit tous se réveiller.
Les parents aussi.
Ben oui.
Les
familles, les proches.
Moi, j'en suis pas revenu. Dans la dernière campagne électorale, il y avait un discours là, sur la vie de famille là, qui était, je pense, toxique. Tu sais, le PQ disait, on va faire vos lunchs. Puis d'autres,
c'est toujours,
les pauvres parents, Hey, c'est beau être parent.
Ouais, puis on t'a pas demandé. On t'a pas demandé de faire des enfants.
De dépeindre ça comme un goulag.
Absolument. Puis on t'a pas demandé de faire des enfants. T'es un adulte, ta job, c'est de t'occuper des petits.
Exact.
On t'a rien demandé. Si t'es pas capable de faire ça, ne fais pas d'enfants.
Il y a un discours social actuellement qui dépeint la vie de famille comme étant un enfer, moi, qui me déplaît. Parce que, je veux dire, n'ai fait des lunchs pour mes trois, là.
Oui, je suis d'accord, moi.
C'était le fun. J'aimais ça. Je leur faisais
combien
des petites surprises.
Fait de lunch?
Pis... Quoi?
T'en as fait combien de lunchs, toi?
Hey, là, Caroline.
T'es très sexiste.
Fais bien attention à ce que tu dis, parce que... J'ai des enfants qui peuvent témoigner puis une épouse aussi.
Non mais on voit les pères aussi s'impliquer là à la garderie, aller chercher les enfants au service de garde. Ben je pense que c'est tout un mélange, mais pour aborder le problème là, d'abord engager du monde. Préposer aux bénéficiaires, fallait faire quoi? Engager du monde, donner le temps aux préposés, aux bénéficiaires puis aux infirmières de traiter chaque patient pour qu'il y ait du temps à elles. Tu sais, c'est la même maudite affaire qu'il y a du temps pour analyser les dossiers, pour intervenir, pour faire des suivis, pour faire des appels, pour assurer que l'enfant est en sécurité.
Pour qu'il fasse pas juste de la paperasse aussi, ça c'est important. La bureaucratisation de ces milieux-là, c'est épouvantable. Ça, c'est le fun,
choses.
Le rapport le dit, là.
Ouais. Bon, ben écoute, et on finit avec, faut se laisser, un mot sur la bataille autour de C10, là.
Ben c'est banal comparativement à cette super échange, mais il y a quand même une bataille sur le projet de loi de Stephen Guilbeault sur le C10, qui dans le fond veut moderniser, si vous voulez, le CRTC pour donner plus de pouvoir, pour contrôler un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et là, il y a une bataille entre les conservateurs et les libéraux. Les conservateurs ont fait quelques blagues sur le fait que, bon, le méchant Parti libéral va vouloir contrôler nos images de chats et puis tout ça. Et là, M. Guilbeault est arrivé avec quelques propositions d'amendement pour dire, ben non, ça s'applique pas au commun des mortels, c'est vraiment dans une intention de davantage contrôler un peu ce qui se dit, mais bon, il y a une bataille sur la liberté d'expression. Et pendant ce temps-là, ce qui est intéressant, je pense que ça nous a échappé un peu tout le monde. Tu sais, vous savez, le dernier budget là, sur la taxe Netflix, qu'on l'appelait la taxe 3%, qui allait s'appliquer un peu à tout le monde, ben là, on apprend, c'est Radio-Canada qui nous apprend ça et le Bloc québécois, que finalement, cette taxe-là va s'appliquer à tout le monde, sauf Netflix. Donc, ça va s'appliquer essentiellement à Amazon, Google, YouTube, Facebook.
Il va falloir changer le nom de la taxe.
Comment?
Il va falloir changer le nom de la taxe.
On va créer un comité.
Bon.
Un commissaire de taxes.
Ben, on va revenir là-dessus demain parce qu'on se reparle demain.
Sur ces 10, là, en tout cas, il y aurait à dire que le Québec pourrait réglementer une partie.
On en parle à garde partagée demain.
Ça. Commençons avec ça demain sur ces 10. On va faire nos devoirs puis on en reparle demain. Merci. Antoine Robitaille, Caroline Saint-Hilaire. À demain.
Au revoir.